C'est PU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, échelon 12 points. Prisme 8 points. Amesis 16 points. Et Cosmos 14 points. L'équipe aujourd'hui d'Ascrit joue tout seul au Scrabble et nos interviewés sont Stanley Kless, avocat, et Stéphane Borsmeyer, ingénieur. J'espère que tout le monde a mis du chiffrement sur ces messages, portable inclus, hein, franchement. Si, si, ça vaut le coup. Allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi, dont on aimerait croire que tu as suffisamment de jugeote pour ne pas avoir à te surveiller tout le temps dans la crainte que tu n'imprimes en 3D une bombe nucléaire. Entends-tu, dans nos campagnes, rugir ces féroces échéances électorales ? Il est clair que pour les présidentielles de l'année prochaine, les sujets concernant Internet vont prendre une place inédite, et même de premier ordre. Des différentes lois de surveillance globale, celle sur la déradicalisation des forums de Skyrock, la loi sur le numérique dont la consultation citoyenne a été superbement ignorée au grand désespoir de Solarus, en passant par la loi création qui veut mettre de nouvelles taxes et barrières aux créateurs, et l'absence de protestation réelle à la surveillance de la NSA. Durant ce quinquennat, qui n'en finit pas de mourir, on en a vu des crades et des moisis. Mais le retour de bâton pourrait arriver très très vite. Oui, osons, contestons, militons, protestons, votons. Il faut dire que nous, citoyens d'un pays démocratique, nous en sommes actuellement à avoir bien plus peur de la police chargée de nous surveiller dans tous nos faits et gestures que des fanatiques qui veulent imposer leur mode de pensée obscurantiste. Et je ne parle pas de ceux qui ne font foi que dans un vieux livre de fantasy. En ce beau mois de juin 2016, par exemple, alors qu'on n'en est qu'au 23e jour, le Congo a coupé Internet le temps des élections présidentielles afin, et je ne rigole pas, qu'il n'y ait pas de contestation sur l'issue du vote. L'Algérie a coupé tout Internet dans tout le pays durant les épreuves du baccalauréat afin d'éviter la triche. Et dans notre propre pays, les ayants droit de la coupe UEFA à déborder le vase fait censurer actuellement les chaînes publiques allemandes sur nos réseaux câblés car elles diffusent les matchs de football. Oui, les plus actifs à vouloir censurer Internet sont ceux démocratiquement élus ou qui ont un mandat qui est confié justement par nos élus. Des gens hyper compétents qui croient aux algorithmes débusqueurs de terroristes comme à la poudre de perlimpinpin à réduire le chômage. Pourtant, Cosmos et Amesis n'empêchent nullement les radicalisés à circuler librement sur le territoire et je ne parle pas que des hooligans russes en service commandé des meutiers. C'est à se demander pourquoi ces armes numériques sont dressées contre nous. Peut-être que les entreprises numériques sortent enfin d'une vision naïve de la politique quand ces ministres visitent leurs locaux, leur promettant merveilles contre une collaboration aveugle et zélée. Même les GAFAM ont décidé qu'il était plus important de protéger l'identité de ses clients face à des demandes juridiques ou policières, car c'est un avantage commercial sur la concurrence. Ainsi, le refus d'Apple de donner les clés de tous leurs iPhones au FBI, alors qu'ils avaient normalement collaboré aux réquisitions de justice au début de l'enquête sur l'attentat de San Bernardino le 2 décembre dernier. Les accords d'échange de renseignements interétatiques étant opaques, Apple ne peut se permettre qu'un passe-partout universel tombe dans les mains d'un régime bien moins démocratique et nettement plus répressif. Oui, enfant du futur immédiat, je te le confesse, nous avons glissé notre programme vers un terrain politique tout au long de cette saison radiophonique, et c'était vraiment pas dans notre cahier des charges, crois-en. Mélanger la politique et la gaudriole n'est absolument pas notre style. C'est un coup à se faire inviter chez Ruquier ou au Grand Journal. Mais il était très difficile de ne pas parler des initiatives publiques, comme le cloud souverain ou l'OS souverain. Un, parce qu'elles sont ridicules, et qu'il vaut mieux en rire au plus vite pour qu'elles se dégonflent. Et puis, on voulait pas attaquer de suite les trolls Mac versus Windows ou Emacs versus VI. Alors espérons que les risques numériques qui pèsent sur les citoyens viennent au centre du débat. Dois-je te l'avouer, entre autres crimes contre l'humanité, je participe en sous-marin dans notre bonne vieille ville non côtière au montage de réunions publiques secrètes appelées Cryptoparty. Nous y enseignons des méthodes de dissimulation de correspondances personnelles aux potentiels terroristes en puissance que sont les journalistes, les avocats, les médecins et les personnes retraitées qui souhaitent converser en toute quiétude avec leur flirt de jeunesse. Comprendront-ils les risques et appliqueront-ils nos leçons ? Ben, je dois être un nécrotame naïf, j'ai confiance. Et d'autant plus quand, en début d'année, et suite à mes activités absolument non répréhensibles, j'ai eu la surprise d'être invité par des étudiants en master M2 de droit numérique à Sciences Po, ex-Marseille. Et ben tu sais quoi ? J'ai vu des étudiants en droit qui ont une culture internet, mais surtout une conscience de la vie privée, donc une éthique du numérique. J'y ai passé une journée où j'ai été joyeusement espanté par leur volonté de ne pas aller vers le tout sécuritaire, de protéger les communications privées, du réel respect de la présomption d'innocence, et donc que la vie privée est une composante essentielle des droits de l'homme qui ne saurait céder sa place à quelque forme d'inquisition. Là, l'homo numericus, le rigolo de service au micro, le parano qui consulte le bon coin en mettant sa cagoule en papier d'alu devant son ordi, le monsieur en uniforme d'opérette qui explique comment protéger ta correspondance épistolaire, bah il est reparti gonflé, se disant qu'il y a de l'espoir et qu'on peut peut-être regagner ce que nous avons malheureusement cédé dans notre panique de ces dernières années. Début juillet aura lieu à Paris une convention sur l'organisation des crypto-parties à l'occasion de passage en scène. Et le 29 septembre prochain, j'interviendrai aussi sur le sujet devant des professionnels de la profession à Paris Web. Enfin, du futur immédiat, il est temps de remettre à leur place les mots « droit » et « devoir », ne cédons plus par méconnaissance ou peur. Nous pouvons refaire de notre société une civilisation éclairée, humaniste et sûre. Par mes modestes moyens, j'espère bien aider d'autres personnes à le faire savoir. La légitimité est dans le nombre. Il est temps de faire basculer les sondages. Convaincre les autres, c'est simple, comme leur expliquer le fonctionnement de l'informatique et de la démocratie. Et donc, en avant, vers des lendemains qui rechantent!
À l'aube de la fin du 19e siècle, les grands penseurs, face à la révolution industrielle, imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.
Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme. En plus puissant que le Jésus-Christ, un putain de beau jour se pointe à le socialisme.
Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat, il n'est pas la hantise. Avec une régulation saine, il évite les crises. Il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde. Somme les profits bien quand il est bien sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien. Tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as trois gamins. Mais non, le socialisme va donner plein de trucs bien. Par exemple, un vice parlant de Lionel Jospin. Et si jamais un jour, tu as très très faim, regarde-le et tu auras moins faim.
Force d'avancer, force de progrès, force d'altruisme.
Le socialisme est trop beau et pour être vrai, le peuple pourrait-il enfin cesser d'être exploité?
Écoute la voix des sages, colle ton oreille sur le coquillage de l'espoir.
Partager avec les pauvres, mais que sont ces idées?
Merci pour partager,
mais si je veux tout garder,
tu seras plus heureux dans le partage.
Oh oui, je suis heureux, le socialisme a gagné. Le socialisme donne des ailes, le socialisme donne une quatre ailes. Oh oui, je suis heureux, je vais en prendre.
J'aimerais tant être socialiste, mais j'habite en ville.
ville. J'aime pas trop vos manifs, moi je suis quelqu'un tranquille. J'ai peur de niquer mes Prada qui m'ont coûté 2000. Et je suis pas fan des merguez et des gens qui s'enfilent. Il te faut alors porter une veste en velours, des lunettes allongées, une écharpe en tour. Aller dans les marchés, acheter des paniers bio et dire à tous tes potes qu'il faut payer plus d'impôts.
Socialisme.
Les Rois de la Suède, extrait de le, c'était leur premier single, extrait de leur premier album Best of Vol 1, avec I, avec un I, Yvan avec un I, pardon, des chanteurs des Fatal Picard, et Monsieur Poulpe à l'époque où il était très drôle, donc il était sur nos lives et pas encore passé sur Canal. En novembre dernier, eurent lieu à Paris plusieurs attentats meurtriers, dont le plus important dans la salle du Bataclan. Il se trouve qu'une semaine après ces funestes événements, devait avoir lieu le Capitole du Libre. Nous avons déjà discuté sur cette antenne avec Emmanuel Elie et Lionel Porcheron du retournement devant la situation. Un des événements maintenus le vendredi 20 novembre 2015 était une table ronde à la médiathèque José Cabanis, modérée par votre radioteur actuellement au micro, et donc sous le titre « Surveillance numérique, nos libertés sont-elles menacées ?». Nous vous diffusons donc un enregistrement de la partie présentation avec Maître Stanley Kless, avocat du barreau de Toulouse, spécialisé dans le droit du numérique, et Stéphane Borsmeyer, ingénieur réseau que nous avions aussi reçu dans ce programme.
CPU, carré et petit utile.
Pourquoi et comment les libertés numériques concernent-elles tous les citoyens ? Quelles sont les limites entre liberté et sécurité ? Et au-delà du constat, comment agir au quotidien ? C'était le programme tel qu'il a été tapé il y a 3 mois. Actuellement, ils ont une résonance très différente pour nous tous, et nous nous rendons compte qu'un terme qui, en soi, est un petit peu geek, en fait, concerne n'importe qui d'entre nous, aussi bien en France, en Europe ou à travers le monde. Les intervenants originellement prévus se sont retrouvés pris dans la tourmente des suites politiques des tragiques événements de vendredi dernier. Ainsi, Adrienne Charmé-Alix, coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, est actuellement dans le flot des lois et décrets qui passent en état d'extrême urgence actuellement devant le Parlement. Tristan Nitto, en tant que membre du Conseil national du numérique et activiste sur les libertés numériques, essaie lui aussi de contrebalancer le flot législatif expédié par l'exécutif pour étendre le judiciaire. Rien qu'à dire cette phrase, je pense que Montesquieu ne va pas arrêter de se retourner dans sa tombe. D'après un sondage IFOP publié mardi par Le Figaro et RTL, 84% des personnes interrogées, pour mieux garantir leur sécurité, sont prêtes à accepter davantage de contrôle et une certaine limitation de leur liberté. Alors 84%, je retire à 100%, je rajoute à TVA et tout ça, ça fait 16% de sympathisants pro-terroristes, si je calcule bien. 2 jours auparavant, le site leparisien.fr questionnait ses lecteurs. Pensez-vous que la loi renseignement est suffisante ? Sur 13 000 votants exprimés qui sont allés volontairement sur le site internet, plus de 85% de non. Faisons une expérience. Alors je vais vous demander de lever la main ceux qui estiment que cette loi n'en fait pas assez et que nous méritons plus de surveillance globale de tous les Français.
Franchement, c'est fini.
Alors soit vous êtes sincère, soit vous estimez qu'elle n'est effectivement pas assez. Mais comme cette conférence est filmée, que vous devez exprimer une opinion contre la majorité et vous ne connaissez pas forcément qui sont autour de vous, et peut-être qu'après tout ils travaillent pour une société qui s'appelle Stasi.de, et ben vous modifiez votre sincérité. La surveillance globale sur Internet, c'est exactement ça. cette autocensure globale que l'on appelle un état de démocrature. Vous modifiez votre opinion parce que vous savez que vous êtes surveillé et vous ne savez pas si à un moment ou à un autre, tout ce que vous pourrez dire, même dans un cadre privé, ne va pas se retourner contre vous. Et dans quelles circonstances, publiques ou privées d'ailleurs. Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Benjamin Franklin, 1755. J'ai vérifié.
Ils finissent généralement par perdre les deux.
Faudrait que tu parles dans le micro pour que ça soit enregistré, Stanley.
J'ai pas l'habitude des micros.
T'as pas l'habitude des micros.
J'aime bien brailler dans les salles d'audience, en fait.
Je me disais. Sans micro. Alors écoute-t-on encore les spécialistes de la technologie lors d'une dérive sécuritaire, alors que les objets connectés à Internet sont au plus près de nous? Mais surtout, quand la plupart de ces spécialistes ont déjà vu les dégâts d'une surveillance globale dans des pays beaucoup moins ouverts que le nôtre. Nous allons beaucoup parler de l'article 11 de l'état d'urgence, de la loi d'état d'urgence, excusez-moi, sur les perquisitions, y compris sur système informatique, mais aussi de la possibilité de censurer les sites Internet et les réseaux sociaux. Stéphane Bortzmeyer, ingénieur en recherche et développement sur les réseaux informatiques, blogueur, spécialiste en infrastructure sur Internet, est donc là pour parler du volet technique. Maître Stanley Kless, avocat au barreau de Toulouse, spécialisé dans les questions du numérique, membre de l'Association française des correspondants aux données personnelles, est là pour être le côté bavard au sens des pas perdus, bien sûr. Je vais demander à Stanley, justement, peut-être de commencer sur l'impact sur les citoyens, justement, des derniers changements.
L'impact est encore difficilement mesurable. Moi, je ne me suis pas encore complètement réveillé de la gueule de bois du week-end dernier et des conséquences qui s'en suivent aujourd'hui. Je les découvre avec vous minute après minute dans la presse. Je constate les mesures qui sont prises. Leur caractère attentatoire aux libertés, ça, c'est une évidence. C'est leur objectif premier. Et j'essaie de percevoir quelles vont être les conséquences pour le quotidien des citoyens, mais aussi pour le quotidien des défenseurs, des avocats, des parlementaires, etc. Et le fait est qu'on peut être résolument inquiet. Alors c'est vrai que cette loi a vocation à durer peu de temps, 3 mois, c'est quand même long, 3 mois. Est-ce qu'elle sera reconduite ou pas? Ça, c'est une inconnue aussi, elle pourrait l'être de la même manière. Mais on voit un certain nombre de mesures gravement attentatoires aux libertés traditionnelles, c'est-à-dire prises sans aucun contrôle d'un juge. Je rappelle qu'en France, on a une constitution qui est le corpus de règles au-dessus de tous les autres et qui va fixer un cadre général, un certain nombre de libertés fondamentales auxquelles les lois et le législateur ne peuvent pas porter atteinte. Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer en ce moment, ce que nous expliquent nos parlementaires, c'est que puisque la Constitution ne permet pas de modifier la loi, bah, modifions la Constitution. C'est quand même beaucoup plus rapide et efficace. Et quand on en arrive à un moment donné où on modifie la Constitution, c'est quand même le texte le plus protecteur de notre pays, celui qui évite que des lois liberticides puissent être votées parce qu'elles vont être considérées normalement comme attentatoires à la Constitution. Et là, on nous explique, bah, puisqu'on veut voter des lois qui limitent les libertés, puisque ça porte atteinte à la Constitution, changeons la Constitution. Changeons la Constitution d'une part et changeons-la en plus en urgence. Et ça me pose un vrai problème parce que jusqu'à présent, toutes les fois où on a eu l'occasion de toucher la Constitution, c'était avec des pincettes, c'était en prenant soin d'essayer de se projeter, d'essayer de voir quelles seraient les conséquences sur le long terme des choix qui seront faits. Et là, en urgence, on nous dit on jette tout et on prévoit en réalité une loi d'exception, une règle d'exception qui devient presque la norme en fait, en tout cas qui va s'appliquer pendant plusieurs mois. Donc danger pour moi.
Monsieur Bortzmeyer, pardon, excuse-moi. En tant qu'informaticien et surtout connaissant le nœud du problème, c'est-à-dire Internet, là où tout se passe, qu'est-ce qui fait que les politiques ont tellement envie de réguler et qu'est-ce qu'ils ont envie de passer en quatrième vitesse, même des fois contre l'avis de leur propre service de police ?
pour la partie concernant l'expression des gens, puisque Internet, c'est avant tout un formidable vecteur d'expression et de communication, c'est pas vraiment nouveau. La tradition en général, au moins en France, c'est qu'on laisse libre les médias du passé qui sont plus trop utilisés et que les médias qui sont réellement utilisés beaucoup par les gens sont plus contrôlés. Dans les années...
C'est d'ailleurs dans la loi d'état d'urgence, l'État a le droit de censurer la presse, la radio et la télé. Ça, ils le font supprimer. Par contre, ils rétablissent sa censure sur Internet.
Ben, c'était le cas simplement déjà dans les années 60, où la presse papier, qui était à l'époque déjà sur le déclin, était libre, et où par contre la télévision était contrôlée de manière qui semble aujourd'hui caricaturale. Aujourd'hui, la télévision est libre, mais on contrôle Internet. Donc ça, c'est une tendance classique de l'État qui souvent n'a même pas besoin de vraiment de justification. Des fois, j'ai entendu dans des réunions des discours du genre « on ne peut quand même pas laisser les gens dire n'importe quoi sur Internet ». Ben, c'est la définition même de la liberté d'expression, mais bon, apparemment, tout le monde n'en a pas la même définition. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, expression. Après, il y a la partie protection de la vie privée. Et là, il y a un truc qui est très important de rappeler, c'est que le déploiement des outils de communication numérique, et notamment Internet, s'est traduit par une perte colossale de la vie privée. On avait, il y a seulement 30 ans, la possibilité de faire un certain nombre de choses de manière réellement privée. On pouvait acheter un livre, on pouvait parler avec des gens, on pouvait consulter un journal. Et aujourd'hui, toute action laisse une trace. C'est un truc que les gens qui ne sont pas informaticiens oublient souvent. Mais comme aujourd'hui, notre vie politique, professionnelle, personnelle, les relations amoureuses, tout passe par le biais d'outils de communication numérique et notamment par Internet, chaque action, chaque clic laisse une trace, chaque opération qu'on fait laisse une trace. Il y a eu des gens qui ont prétendu qu'avec certaines mesures de sécurité qu'on déploie maintenant, la police est devenue aveugle, ne peut plus écouter les communications. Rien n'est plus faux. La réalité, c'est au contraire qu'on a un moyen maintenant d'intercepter les actions, les communication des gens qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire l'État le plus dictatorial il y a 40 ans était limité par les mesures physiques. Il fallait suivre des gens dans la rue, ça nécessite du personnel. Il fallait écouter des gens, écouter leur communication téléphonique et l'enregistrer. Il fallait du personnel, des moyens, des bandes magnétiques, tout ce qu'on voit dans le film La vie des autres. Et ce que permet l'informatique et dont la plupart des gens ne sont pas encore conscients, c'est d'avoir la même activité, mais avec quasiment pas de limite physique.
Pour en revenir à l'un des fantasmes actuellement des hommes politiques, qui est d'essayer de trouver les signaux faibles du terrorisme, est-ce que, en soit, c'est une preuve qui serait recevable devant un juge avant justement les attentats, et est-ce que maintenant c'est quelque chose, les simples soupçons, sans même la moindre ombre d'une preuve, pourrait permettre d'emprisonner quelqu'un?
En l'état actuel, avec cet état d'urgence décrété, effectivement, on se retrouve avec un système inconnu pour nous, puisque la dernière fois que ça s'est produit remonte un certain nombre d'années quand même. Et on a un petit peu de mal à anticiper la manière dont ça va être effectivement exécuté. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut effectivement, la police peut effectivement perquisitionner avec une autorisation minime, va pouvoir arrêter les gens et les détenir, les placer en garde à vue.
C'est pas vrai, ils l'ont fait.
Non, mais là, voilà,
c'est pour des affaires de droit commun. Déjà, ils ont fait quelques descentes dès dimanche. Ah
bah, c'est objectivement inespéré. C'est évident que c'est quand même beaucoup plus simple si tout d'un coup on peut se passer de la paperasse administrative auquel sont soumis les enquêteurs généralement. Là, tout d'un coup, ils n'ont plus besoin de faire des papiers, plus besoin d'autorisation du juge, plus besoin de justifier autant qu'ils devaient le faire avant. Chef, on doit y aller. Chef, ok, allez-y, pas de problème, vous pouvez rentrer, prendre ce que vous voulez, arrêter qui vous voulez et les détenir pendant un temps donné. Donc, non, il y a un réel danger sur cette loi-là, et surtout l'absence de contre-pouvoir, encore une fois, puisque, que ça soit avec la loi sur le renseignement dont on était supposé parler aujourd'hui au départ, on va dériver, c'est évident, et également avec cette loi qui vient d'être votée, on se retrouve dans un système d'exception, c'est-à-dire que tout le cadre traditionnel qu'on connaît, où la police a le droit de m'arrêter, mais j'ai des garanties, on peut perquisitionner mon domicile, mais seulement entre telle heure et telle heure, seulement avec un témoin. on peut fouiller mon véhicule, mais avec la possibilité d'exercer des recours, de faire appel, de contester une mise en examen, de contester une condamnation. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve, que ce soit, et c'est là qu'on se rejoint avec cette loi sur le renseignement ou avec cette loi sur l'état d'urgence, dans un système où le droit tel qu'on le connaît n'existe plus. Donc tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on savait en termes de protection, je suis arrêté dans la rue, je suis placé en garde à vue, j'ai droit depuis peu à un avocat, je suis, etc., tout ça disparaît. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un arbitraire. Donc cet arbitraire nous est justifié par les risques et les menaces qu'on a connues, et c'est plus que des menaces. Mais, encore une fois, le juriste que je suis a beaucoup de mal à réagir puisque et à anticiper les conséquences, puisque on sort du domaine du droit tel qu'on le connaît. C'était le cas de la loi renseignement, où, encore une fois, ce n'est pas une loi qui concerne les perquisitions ou les écoutes réalisées par les policiers. Ce n'était pas le propos de la loi. Les écoutes réalisées par la police, traditionnellement, les écoutes ordonnées par un juge, n'étaient pas du tout concernées par la loi sur le renseignement. C'est un autre pan du droit, ce n'est pas la justice, c'est ce que font les services de renseignement sans être tenus d'en rendre compte à qui que ce soit, c'est-à-dire pas plus aux députés et aux sénateurs, aux citoyens. Ils sont simplement tenus d'en répondre devant le Premier ministre, point. Et là, on en revient un petit peu à la même chose avec une loi dont les acteurs ou les gens qui vont l'utiliser n'auront de compte à rendre qu'à très peu de personnes qui vont se retrouver à concentrer énormément de pouvoir entre leurs mains. Et donc, on sait tous qu'à partir du moment où on donne des pouvoirs étendus à une personne, que ce soit un policier de base ou que ce soit au président de la République, il y a un risque potentiel qu'ils en abusent, et donc pour cette raison-là, il faut des garde-fous, il faut des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, je cherche vainement ces contre-pouvoirs, et à partir du moment où je ne les vois plus, je suis légitimement inquiet.
On a parlé de la loi renseignement. En fait, c'est une loi qui institue l'écoute globale sur Internet. Il y a des gens qui utilisent le chiffrement, mais ce chiffrement existait déjà avant cette loi. En fait, quelles sont les missions du chiffrement ?
Alors, le chiffrement des communications, ou d'ailleurs d'une machine même qui ne communique pas, c'est utiliser un ensemble de techniques mathématiques qui permettent de transformer un message normalement clair et compréhensible en une série de chiffres incompréhensibles pour quiconque ne possède pas la clé. Donc ça dépend d'un secret que, si on est le seul à connaître, on est protégé. C'est... Le point important, c'est que le chiffrement a des fois été présenté comme un moyen de gagner en vie privée par rapport à ce qu'on avait avant. Mais ce n'est pas une bonne présentation. J'avais dit, le déploiement des outils de communication numérique fait qu'on a considérablement perdu en vie privée. Des opérations qui étaient banales avant ne le sont plus. Par exemple, simplement acheter un journal et le lire. Avant, on pouvait le faire de manière complètement anonyme. On va dans un kiosque, on achète le journal avec de l'argent liquide. C'était anonyme. Et le passage à « on lit le journal en ligne » fait que ce qui était anonyme devient, au contraire, traçable, enregistrable par des tas de gens. Pas seul par le propriétaire du site web du journal, par le fournisseur d'accès Internet, par l'État, par plusieurs acteurs intermédiaires comme les régies de publicité. Donc le chiffrement ne vise pas à nous donner une vie privée supplémentaire ou à augmenter l'anonymat. Il vise à rétablir partiellement ce qu'on avait avant en matière d'anonymat et de vie privée. Et ça, c'est le point important, parce qu'il y a pas mal de gens... pour l'instant, j'ai été surpris, mais dans le délire législatif qui a suivi les attentats de vendredi, il n'y a pas eu de mesures directement visant le chiffrement. Par contre, il y a tout un discours tenu par des autorités, donc comme le procureur à Paris en l'été dernier, ou comme d'autres personnes depuis les attentats, le directeur du FBI, par exemple, récemment. Il y a tout un discours diabolisant le chiffrement, expliquant que si on utilise le chiffrement, on est un terroriste, en gros, ou complice des terroristes. Et il est donc probable que le prochain attentat, parce que hélas, il y a peu de chances que Daesh s'arrête là, donc il y aura sans doute malheureusement encore d'autres attentats, et il est probable que le prochain attentat sera utilisé pour des mesures limitant le chiffrement. Alors, quelles sont les mesures en question ? C'est, quand je l'ai expliqué au début, le chiffrement, ça avait l'air d'être binaire. Soit le message est en clair et tout le monde peut le lire, c'est un point important que je rappelle pour les gens qui ne sont pas informaticiens. Quand on ne chiffre pas les messages, tout le monde peut le lire. Vous utilisez un téléphone portable pour communiquer. C'est des ondes radio qui sont diffusées partout. et que n'importe qui peut, avec un matériel qui est aujourd'hui assez bon marché, intercepter et écouter. S'il n'y a pas de chiffrement, c'est exactement comme si toutes vos conversations étaient faites à voix haute dans un lieu public en criant très fort. Donc le chiffrement limite ça, mais le chiffrement présente un certain nombre de limites. Ce n'est pas une solution parfaite à tous les problèmes. Et donc quand certaines personnes dans les autorités prétendent qu'avec le chiffrement, la police devient aveugle, ça n'est pas vrai. Parce que le chiffrement nécessite tout un tas de précautions qui ne sont pas forcément prises par tous les utilisateurs. Un exemple typique, vous utilisez Gmail pour communiquer. La communication entre votre ordinateur et Gmail est chiffrée. Donc un tiers sur le trajet ne peut pas écouter. Mais à l'autre bout, c'est déchiffré et Google a l'intégralité de la communication. Donc, idem si vous, au lieu d'utiliser Google, vous utilisez un autre service. Donc, le chiffrement n'est pas une arme absolue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est nécessaire de continuer à utiliser le chiffrement, à le perfectionner, à l'utiliser mieux. Mais c'est aussi pour ça qu'il est tout à fait faux de prétendre que le chiffrement empêche toute enquête. Je le répète, avant le développement des outils de communication numérique, tout un tas d'actions étaient anonymes et privées, et elles ne le sont plus. Et pourtant, dans les années 50, les policiers enquêtaient déjà et résolvaient déjà les énigmes. Donc, le chiffrement n'est pas une arme absolue, mais sans lui, on est complètement ouvert, tout est public, rien n'est privé, et tout ce que vous faites peut être connu par beaucoup de gens. C'est un point important, et on ne le répétera jamais assez, la personne qui est chez lui, devant son ordinateur, en train de s'exprimer sur un forum, par exemple, peut croire que c'est privé parce qu'il est chez lui, parce qu'il est tout seul chez lui, parce que personne n'écoute, mais en fait, de nombreux acteurs de l'Internet ont accès à tout ou partie de ses communications et peuvent en déduire plein de choses sur ce qu'il fait. C'est un point qu'on ne répétera jamais assez. Le chiffrement ne vise pas donc à apporter un nouvel anonymat qu'on n'avait pas. Il vise à compenser partiellement la perte d'anonymat qui est le résultat du déploiement des technologies numériques.
Maître Claes, vous êtes surtout dans le droit des affaires, si je ne me trompe.
Oui, numérique au sens large.
Voilà. D'une manière étonnante, le chiffrement est quand même la conclusion normale quand on est chef d'entreprise et que l'on doit tout simplement respecter les obligations de la CNIL sur la gestion en fait, de la vie privée de ses clients.
Alors, en théorie, oui. En théorie, oui, notamment sur les questions de données personnelles, la loi informatique et liberté de 78 qu'on connaît tous impose une sécurité des données qui sont traitées par des différents opérateurs qui sont responsables des données qu'ils traitent. Donc on pourrait supposer qu'il va y avoir une sécurité, que les grosses entreprises vont avoir des salles fermées à clé à minima et puis des codes d'accès et puis différents niveaux de protection technique. Mon expérience montre que c'est pas le cas, que les entreprises ne prennent pas suffisamment en compte la sécurité, ne sécurisent que très peu, sécurisent pas les boîtes mail, sécurisent assez peu leurs fichiers. Ben, j'ai régulièrement des employeurs qui m'appellent en me disant « le commercial est parti avec le fichier client, comment je fais ?» Non, mais c'est extrêmement fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et globalement, la préoccupation première des entreprises, c'est déjà que ça marche. Si ça marche, c'est bien, on va pas compliquer en plus en rajoutant le chiffrement. Donc souvent, c'est assez maltraité et j'ai longtemps, je dirais pas prêché dans le désert, mais je m'intéresse aux données personnelles depuis longtemps et je dois dire qu'avant Snowden et l'affaire Prism, on nous disait « mais vous êtes parano », maintenant on nous prend un peu plus au sérieux. C'est devenu intéressant, on pouvait commencer à en parler et avoir une prise de conscience réelle. Malheureusement, depuis quelques jours maintenant, quand on commence à dire que les contrôles sur les communications et autres sont attentatoires aux libertés, on se retrouve avec des gens qui vous expliquent qu'ils n'ont rien à cacher. Moi-même, ce matin, je me suis retrouvé à discuter avec ma collaboratrice, qui est avocate aussi, qui est sensible aux libertés fondamentales, etc., mais qui, dans le feu des événements passés et des attentats, me disait « mais moi, j'ai rien à cacher, s'ils veulent perquisitionner chez moi, qu'ils viennent, moi, j'abrite pas de terroristes, allons-y ». Or, il y a un vrai danger à ce niveau-là. Je vais vous dire des évidences, mais il faut les rappeler quand même. C'est qu'à un moment donné, les systèmes de surveillance informatique fonctionnent sur des logiques de mots-clés. C'est comme ça qu'ils les ont mis en œuvre. Un mot-clé, il est décidé par le pouvoir en place et il peut changer. Il ne faut pas quand même oublier que tous les gouvernements totalitaires sont toujours arrivés au pouvoir par les urnes. Aujourd'hui, on a un gouvernement a priori démocratique. Demain, on peut avoir une Marine Le Pen au pouvoir. Je ne suis pas certain que ça reste aussi démocratique ou pas. Il faut dire les choses clairement quand même. Et donc à partir du moment où, encore une fois, l'avenir n'est pas écrit, qu'on peut se retrouver avec un gouvernement totalitaire au pouvoir, demain c'est une question de mots-clés. Aujourd'hui, si vous me dites je vais filtrer djihadistes sur Internet, bon, si c'est pour retrouver des djihadistes convaincus, c'est difficile de s'y opposer. Le problème avait commencé plus tôt, quand on disait on va lutter contre les pédophiles. Personne ne peut dire je suis pour les pédophiles, de la même manière que personne ne peut dire je suis pour les djihadistes. Donc on va mettre en place des outils de contrôle, de surveillance, et on nous explique au départ que c'est pour lutter contre la pédopornographie. Maintenant, on nous explique que c'est pour lutter contre les terrorismes. Ce qui est vrai, et c'est effectivement très bien, mais le problème, c'est que ces outils peuvent être détournés demain, et demain, on peut rajouter révolte, manifestation, appel à la désobéissance civile, barrage Sirven, et que sais-je encore, pour arriver à contrôler en temps réel ce que font les citoyens dans un pays, ou en tout cas prétendre et croire le contrôler. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir, moi qui me surprend un petit peu. Je ne suis pas expert en sécurité informatique, donc je parle sous contrôle, mais on nous dit aujourd'hui, les chiffres sortent, qu'il y aurait à peu près 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S en France, donc qui devraient être davantage surveillées. Le renseignement.
On explique, hein, une fiche S, c'est quelqu'un qui est fiché aux renseignements généraux et sur lequel on n'a pas de preuves, c'est juste des soupçons. Mais en général, des soupçons suffisamment sérieux pour qu'on surveille la personne.
Donc a priori, 11 000.
Défavorablement connus des services de police.
Il y a plusieurs catégories de fiches S. Donc sur 60 millions d'habitants, 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S, donc qui sont a priori à surveiller ou dont on pourrait penser qu'il faudrait peut-être surveiller spécifiquement leurs communications, leurs échanges. Les services de renseignement nous disent qu'actuellement, ils sont supposés suivre à peu près 2 000 personnes identifiées comme vraiment dangereuses. On se rend compte qu'ils ont été extrêmement rapides à les retrouver après les attentats, et j'en suis le premier satisfait. On s'aperçoit également qu'en tout cas, ils n'étaient pas dans les radars du renseignement avant ces attentats-là, malgré le fait qu'ils étaient dans les 2000 ou dans les 11 000 à surveiller, et donc que les services de renseignement français, étrangers, se sont révélés incapables de surveiller et d'extraire cette donnée permettant de voir qu'il y avait un danger sur ces personnes-là. Et dans le même temps, avec la loi sur le renseignement, on nous dit on va surveiller en temps réel les communications et les échanges sur Internet de 60 millions de personnes. Ça me paraît assez difficile techniquement et ça me paraît un petit peu dangereux. Pour une raison purement mathématique, j'étais tombé sur un article, Le Monde ou Mediapart, je ne sais plus, qui faisait un calcul assez simple. En disant, bon, admettons, je vous lis le paragraphe, admettons qu'il existe un super algorithme qui fonctionne vraiment très très bien et qui donne le bon résultat dans 99,5% des cas. Donc déjà, un algo qui fonctionne à 99,5% des cas, ça n'existe pas.
Vous le voyez là, le sourire que François et moi.
Admettons. Bon, imaginons que sur 65 millions de Français, il y ait 1000 terroristes. L'algorithme donc, va détecter 1000 fois 99,5%, donc il va détecter à peu près 995 terroristes sur 1000. Donc bon, c'est un résultat intéressant. Il y en a quelques-uns qui vont passer entre les mailles du filet, mais on va en trouver l'essentiel. Mais si on surveille 65 millions de personnes, il y a aussi 65 millions moins 1000 fois 0,5%, ça veut dire qu'on va avoir 324 995 faux positifs. Et bien sûr, pour chaque détection d'un faux positif, il faudra nécessairement mener des investigations, engager des moyens d'enquête, mettre des enquêteurs sur le coup, et donc des moyens humains, des moyens financiers, pour être certain que ce mot-clé qui a été détecté, que cette détection correspond effectivement à un terroriste en puissance, et donc faire sonner des alarmes et faire une surveillance plus poussée. Donc ça veut dire que le risque de faux positif est complètement délirant par rapport à l'objectif poursuivi. Donc il faut regarder ces chiffres-là et essayer de voir quelle a été la volonté du législateur. Et on se rend compte que le législateur, dès qu'il parle de technique, est souvent largué. On l'avait déjà vu à l'époque de l'Adopi, c'est à cette époque-là qu'était née la quadrature du net, qui avait mis en évidence des contradictions, mais patentes, entre les déclarations, c'était Albanel à l'époque, et la réalité technique. Et là, on continue en nous disant, mais il n'y a pas de problème, on va pouvoir ressortir des mots-clés de manière précise. Et puis, à l'époque de l'adoption de la loi, pour assurer, on nous a dit, on va, rassurez-vous, les données seront anonymisées. Alors ça, j'ai jamais bien compris, parce que forcément, si je scanne et je scrute en temps réel le réseau Internet, bah forcément, c'est pas de données anonymisées. Et on me dit après, mais vous en faites pas, elles seront après stockées de manière anonymisée. Or, aujourd'hui, techniquement, scientifiquement, on ne sait pas anonymiser, ou en tout cas extrêmement difficilement. Anonymiser, ça veut dire garantir que on va pas pouvoir faire l'opération inverse. C'est pas juste enlever les données nominatives. Ça, c'est facile. J'enlève la moitié des informations, mais c'est garantir que par rapport au numéro que j'ai mis sur la fiche, je ne vais pas pouvoir, à un moment donné, faire l'opération inverse qui va me permettre de retrouver l'ensemble de la fiche d'une personne. Et ça, c'est extrêmement difficile et les plus grands techniciens en matière informatique butent souvent sur cette question-là. Et là, l'État nous dit pas de problème, nous, on sait faire. De la même manière que l'État nous disait à une époque, pas de problème, on va sécuriser les connexions Internet de l'ensemble de la population. Apple n'y arrive pas, Sony n'y arrive pas, mais Madame Michu, elle, va y arriver très très bien, sans aucun doute. Et il y avait les mêmes naïvetés qu'on retrouvait. Je fais des comparaisons parce qu'on retrouve les mêmes à peu près. Sur la Dopi, on nous disait, mais vous en faites pas, on va lancer un appel d'offres pour obtenir une solution qui vous permette de sécuriser votre modem, votre box Internet. Crédulité de législateur. Bien évidemment, il n'y a pas une entreprise qui a imaginé répondre à cet appel d'offres pour la simple et bonne raison qu'une entreprise qui dirait « moi, je vais sécuriser les connexions Internet de 60 millions de Français » va se faire hacker sa solution avant même qu'elle soit sortie. Dans la seconde. C'est une telle cible, c'est comme le nez au milieu de la figure. Quoi. C'est ça
si même les banques n'y arrivent pas.
Si les banques n'y arrivent pas, si Apple n'y arrive pas, etc., on me dit que moi, je vais y arriver tout seul dans mon coin. Naïveté de législateur. Et là, on en revient avec les mêmes errements techniques, avec les mêmes approximations techniques, en nous disant, rassurez-vous, braves gens, les algorithmes tournent, on vous protège, et on ne s'est pas anonymisé, mais on a décrété qu'on savait. C'est le pouvoir du législateur qui peut décréter qu'il sait faire des choses que personne d'autre ne sait faire. Donc on retrouve comme ça tout un tas d'incohérences et techniques et derrière juridiques, dont notamment les moyens, je ne vais pas rentrer dans le détail précis, mais dans les contre-pouvoirs qui existent au niveau de la loi renseignement, et qui posent réellement problème, puisque même l'État n'écoute pas ses propres scientifiques, n'écoute pas ses propres services sur ces aspects techniques.
Je voudrais profiter qu'on ait quelqu'un qui est vraiment au nœud de ce qu'est Internet en France. Combien ça coûterait d'intercepter tout le contenu de ce qui s'échange entre les Français? Est-ce que tu en as une idée?
Je vais faire un devis là. Ça dépend. C'est pas si dur que ça, justement, dans la mesure où ça ne nécessite pas de percée théorique fondamentale. On me donne un budget, je le fais, et j'ai même pas l'impression que ça soit si coûteux que ça. C'est pas effectivement un truc que je peux faire avec mes moyens perso, mais pour un État, c'est aujourd'hui possible. La NSA le fait, et donc d'autres, la NSA aux États-Unis, l'agence d'espionnage aux États-Unis le fait, et y compris pour d'autres pays que le leur.
Seulement pour d'autres pays que le leur, théoriquement pas chez eux.
En théorie, mais j'ai du mal à y croire. Mais donc d'autres pays peuvent le faire aussi. Ça nécessite des moyens, c'est pas facile, mais les moyens sont en augmentation rapide. La vraie difficulté, qu'est-ce qu'on fait après de ces données? C'est-à-dire, ce qui est facile, c'est de récolter des données. Ça, les ordinateurs sont très forts pour ça. Ils peuvent copier des quantités énormes de données toute la journée sans jamais se lasser, sans jamais s'arrêter. C'est la force d'ordinateur. Après, quand on parle de traitement d'information, on a au plus bas niveau les données, c'est-à-dire les 0 et les 1 qui circulent sur le câble et qui peuvent être copiées très facilement. C'est un point important du numérique, il n'y a aucun moyen de s'apercevoir que ça n'a pas été copié. Une enveloppe papier, quand on l'ouvrait à la vapeur, qu'on la refermait, même ça, ça laissait des traces. Avec le numérique, on peut copier sans laisser aucune trace. Après, une fois qu'on a les données, il faut en extraire de l'information. L'information, c'est par exemple, Alice avait rendez-vous avec Bob à 16h, ou Charlie a mis un article sur son blog en ligne. Ça, c'est déjà un Ça, c'est déjà beaucoup plus dur. C'est un travail de traitement qui est déjà plus difficile. Et puis après, il n'y a pas d'information, il y a la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Alice et Bob avaient rendez-vous à 16h. Ok, très bien. Mais pour faire quoi? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'ils préparent un attentat et quand. Et ça, c'est une opération beaucoup plus difficile et qu'effectivement, aucun algorithme ne peut faire. On échoue. Et c'est d'ailleurs pour ça que, bien que la loi sur le renseignement ait été votée des mois avant les attentats du vendredi 13, ça n'a rien empêché, ou les mesures extrêmes de la NSA aux États-Unis n'ont pas empêché les attentats du marathon de Boston, parce que récolter des données, c'est facile, les transformer en informations, c'est déjà plus dur, mais après, comprendre ce qui se passe, c'est beaucoup plus dur, et là, c'est forcément encore, pour sans doute encore longtemps, un traitement humain. Et là, ce traitement humain, c'est souvent celui qui défaille, parce que un point qui a été rarement cité dans le débat sur les mesures qui ont été prises depuis vendredi, c'est souvent le débat était caricatural. Il y a les gens qui veulent de la liberté et qui sont pas prêts à la sacrifier, et puis ceux qui veulent de la sécurité et qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté. Mais il y a des éléments importants du débat qui sont complètement passés à la trappe. Par exemple, c'est simplement la bête vulgaire question des moyens financiers. Quand vous parlez à des policiers qui font des enquêtes, c'est rare qu'ils demandent une réforme de la Constitution. En général, ils disent « Ah ben ça serait bien si on pouvait avoir au commissariat les voitures qu'on nous a promis depuis 6 mois et qu'on n'a toujours pas. » Ou si on pouvait avoir enfin des ordinateurs un peu plus modernes pour faire notre travail.
Je peux t'interrompre sur ce point-là pour une info précise transmise par les brigades de cybersécurité. J'avais fait des interventions avec eux, etc. On avait discuté. Ils traitent à peu près 40% des plaintes qu'ils reçoivent. 40% des plaintes qu'ils reçoivent, pour plusieurs raisons. La première, pour les raisons financières, c'est-à-dire que quand ils doivent, par exemple, enquêter, demander des informations à Orange, Orange va leur facturer 300 € la transmission des informations. Et ils n'ont pas le budget. Donc comme ils n'ont pas le budget, s'il n'y a pas un préjudice important, tout simplement, ils ne traitent pas.
Et donc, à cause de ces difficultés de traitement, c'est là plutôt où... On a lu des articles après du genre « Mais comment se fait-il que machin qui était connu comme dangereux n'ait pas été suivi ?» Ben, simplement par ce manque de moyens. Mais évidemment, pour un ministre, c'est beaucoup plus facile de faire voter une loi, surtout suite à un attentat dans l'émotion, que de dégager des moyens pour le travail concret des enquêteurs sur le terrain. Donc pourquoi est-ce qu'il y a autant d'efforts qui sont donc faits pour intercepter ces quantités de données alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra en transformer qu'une partie en information et qu'une partie de la partie en compréhension? Ben, c'est parce que ce genre de surveillance massive, c'est très peu efficace contre des djihadistes c'est très peu efficace contre des ennemis compétents qui font attention et qui prennent des précautions. Par contre, ça marche très bien contre des citoyens ordinaires qui ne prennent pas de précautions. On parlait des entreprises tout à l'heure, mais c'est encore plus vrai pour le citoyen ordinaire. Le citoyen ordinaire ne prend pas de mesures particulières de protection, d'autant plus que ces mesures de protection sont souvent diabolisées. On parle d'un dark web dans lequel se comploterait Dieu sait quel crime. Donc le citoyen moyen est complètement transparent. Et lui, passer de ces données à l'information et à la compréhension, c'est beaucoup plus facile. Donc la surveillance massive est très inefficace contre des ennemis déterminés, et ça a été largement prouvé aux États-Unis, où la surveillance massive est déployée depuis même bien avant les attentats de 2001, mais encore plus depuis, et ça n'a rien empêché. Par contre, elle est très efficace si on veut surveiller la population, si on veut savoir ce qui se passe, si on veut savoir qu'est-ce que préparent les opposants à la construction de tel aéroport, ce genre de choses.
Est-ce qu'on a une chance peut-être d'arrêter les scandaleuses manifestations dangereuses de taxis ou d'agriculteurs avec
Là, c'est beaucoup plus efficace. Oui, ça pour le coup, c'est radical, effectivement. Quoi. C'est,
et tu crois qu'ils vont le faire ?
Là, tout de suite, peut-être pas le sujet de la semaine, mais...
Supposons que je sois arrêté pour une raison X ou Y. Si je refuse de donner mon mot de passe d'accès à mon ordinateur ou au serveur auquel j'ai accès, pour différentes raisons, parce que ce sont des serveurs professionnels, parce que j'estime que je suis innocent, comme le bébé qui vient de naître, ce qui fera rire la moitié de la salle, mais qu'est-ce que je risque concrètement actuellement ?
Alors jusqu'à peu, c'était votre droit le plus absolu de ne pas révéler le mot de passe de votre ordinateur ou le mot de passe d'un service stocké en ligne qui permet d'accéder aussi à vos données. Le seul risque, c'était de rester un ou deux jours de plus en garde à vue. Ça, le risque était bien réel. Mais les policiers n'ont pas de moyens de coercition pour vous forcer à communiquer ou à transmettre un mot de passe. Ça, c'est quand même une réalité. Ils éprouvent, d'après ce que j'ai entendu, des difficultés quand même. C'est vrai que le chiffrement les gêne un petit peu quand même, c'est une réalité. Je contredis un petit peu le propos précédent, notamment suite aux révélations de Snowden et compagnie, les entreprises américaines, Google et autres, se sont mis à chiffrer davantage, donc chiffrer les téléphones,
c'est-à-dire dans l'ordinateur qu'est le téléphone, avant même que ça parte vers les serveurs.
Et visiblement pas trop mal, en tout cas mieux que ce que savent faire les brigades de base au niveau police. Donc ça leur pose un petit peu de problème en termes d'accès aux données. Ça, c'est ce qu'ils me racontent. Maintenant, encore une fois, pour le moment, il n'y a pas d'obligation absolue de transmettre un mot de passe, même si en l'état actuel, avec la loi de l'état d'urgence, ça risque de devenir un petit peu plus dangereux de s'y opposer. En tout cas, les réactions risquent d'être un peu plus hostiles, mais pas d'obligation à ce niveau-là.
Étonnamment,
je rappelle quand même que ça vient du principe que, quelle que soit la situation, garde à vue, etc., on a le droit de garder le silence.
Étonnamment, puisqu'on parlait du chiffrement, Bernard Cazeneuve, qui est le ministre donc de l'Intérieur, l'a très clairement dit dimanche dernier lors d'une interview. Il a dit qu'il allait s'attaquer au chiffrement. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune banque française, aucun service d'e-commerce qui n'ait protesté là-dessus en disant on en a besoin, alors que c'est grâce à elle que ce n'est plus une arme considérée comme une arme militaire depuis 1999.
On a eu du mal en France à sortir du chiffrement, à débrider le chiffrement pendant longtemps. Il était limité sur la taille de la chaîne de chiffrement, donc le nombre de bits. C'est en 1999, 2001 après, qu'on s'est doucement ouvert en considérant que c'était nécessaire notamment au fonctionnement du web et ce que vous rappeliez, c'est-à-dire le fait qu'on ait le maximum de nos vies qui soient aujourd'hui transférées sur du numérique et sur Internet. Donc on a cette problématique-là. Rappelez-moi la question précisément, je me perds dans la...
Ce que je disais, c'est que justement, ceux qui ont été les principaux militants, c'est-à-dire les banques, les entreprises qui voulaient lancer de l'e-commerce, on ne les entend pas depuis une semaine. Ils ont peur d'être traités de salafistes.
Je crois qu'ils ne bullent pas et puis je crois qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Je crois qu'ils considèrent que le chiffrement est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas un minimum de chiffrement. Airbus, si ne serait-ce qu'à tout, je veux dire, si Airbus décidait de ne plus chiffrer ses postes informatiques, ça veut dire ouvrir sa technologie à Boeing. Je ne suis pas certain que ça soit le souhait du législateur que les entreprises françaises ou européennes ouvrent leur technologie largement à des compagnies, entreprises étrangères ou concurrentes. Donc je pense qu'elles-mêmes ne se sentent pas vraiment inquiètes et savent que ça ne pourra pas passer. Après, le risque, c'est de faire des sociétés à deux vitesses, c'est d'autoriser par exemple le chiffrement pour l'armée et les entreprises stratégiques, et de l'interdire pour le citoyen lambda dont je fais partie. Ça, par contre, effectivement, on pourrait voir apparaître ce risque-là.
Il y a autre chose dont il est question depuis plusieurs jours, qui est de censurer donc les sites où sont les djihadistes. Est-ce que c'est facile au sein d'un pays de censurer un site et est-ce que vraiment ça marche?
C'est surtout que le gouvernement a réussi à faire très fort en faisant voter une loi qui donnait des pouvoirs qu'il avait déjà. Il y a eu un très bon article d'Andrea Fradin dans Rue 89 à ce sujet il y a deux jours qui analysait l'état juridique et avant les attentats du vendredi 13 et avant les votes de loi en urgence qui ont été faits depuis, cette possibilité existait déjà. En fait, elle existait même de plusieurs façons. Il y a l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, peut interdire, par une simple décision de cette autorité administrative, peut interdire tel ou tel site de paris en ligne. La justice peut le faire et s'en était pas privée, par exemple, pour les sites de partage de fichiers musicaux, de films, de trucs comme ça. Et le gouvernement pouvait le faire via le ministère de l'Intérieur pour les sites qui faisaient l'apologie du terrorisme. Et ça, c'était bien avant les attentats de vendredi. Donc non seulement il y a eu un excès de législature depuis vendredi, mais en plus souvent inutile, puisque dans le désir d'annoncer des nouvelles lois, on fait quelque chose. On peut pas rester sans rien faire, faut qu'on fasse quelque chose. Et on remue le menton pour montrer qu'on est sérieux. On a même fait donc voter des lois qui existaient déjà. Celle-là, ça m'est moins dangereuse puisque ça existait déjà. Maintenant, du point de vue technique, Là encore, tout dépend de ce qu'on est prêt à faire. Si on fait comme en Corée du Nord, ou de regarder une émission de télé de Corée du Sud, c'est la peine de mort, c'est assez efficace et ça marche assez bien. La plupart des gens ne passent pas outre. Si on est prêt à déployer des moyens comme ça, alors on peut faire effectivement une censure efficace et qui marche. Si on n'y est pas prêt, la censure sera moins efficace et tous les pays qui censurent l'ont découvert qu'on ne peut pas atteindre 100% de succès malgré les mouvements de menton de plus en plus agités des ministres. Ceci dit, ils ne cherchent pas forcément 100% de succès. Ils cherchent à ce que on puisse contrôler l'information vue par la majorité des gens. C'était encore l'exemple que je citais des années 60, hein, où la presse papier était libre. Le Canard enchaîné existait, racontait à peu près ce qu'il voulait. D'autres journaux racontaient ce qu'ils voulaient. Mais la télévision, c'est-à-dire le média qui, à l'époque, était la source d'information principale des Français, était contrôlée de manière caricaturale avec le ministre de l'Information qui téléphonait tous les jours quels devaient être les sujets du journal télévisé du soir, des choses comme ça. Donc pour Internet aujourd'hui, les informaticiens souvent ont tendance à ricaner devant les tentatives de censure en disant « Ah, mais c'est facile à contourner, je vais mettre un VPN et puis je vais utiliser Tor. » Et puis d'ailleurs, j'ai changé editresolve.conf pour mettre 888
pas si
dedans.
Vite. Pas si vite.
C'est ce genre de mesure...
Oh, c'est la traductrice.
Pardon. Donc, je le dis autrement, les informaticiens peuvent avoir tendance à ricaner face aux mesures de censure parce qu'ils connaissent des techniques qui permettent de passer outre et qui marchent effectivement tant que le gouvernement n'est pas prêt à utiliser des mesures drastiques, genre peine de mort, camp de concentration et tout ça. Tant qu'on n'est pas prêt à faire ça, la censure sera pas efficace à 100%. Une partie de la population y échappera. Mais de toute façon, ce qui intéresse les censeurs, c'est la grande majorité de la population qui, elle, ne sait pas utiliser ces outils ou n'est pas consciente de leur existence, la grande majorité de la population qui ne prend pas de précautions particulières, et c'est cela qui les intéresse. Là encore, le but réel n'est pas d'empêcher les djihadistes endurcis de regarder leur site web favori. Ils savent comment faire pour échapper à la censure. Le but, c'est de s'assurer qu'on aura un mécanisme de contrôle de ce que voit la majorité des citoyens. Stanley parlait de société à deux vitesses, c'est tout à fait ça. Hein. Le but, c'est que la majorité des populations sur qui on compte, celle qui devra aller voter tous les 5 ans, cette majorité de population, on pourra contrôler ce qu'elle verra. S'il y a quelques personnes qui vont à Capitole du Libre suivre des ateliers où on apprend à chiffrer, à ce genre de choses, c'est pas un problème. S'il y a quelques utilisateurs de Tor, un système permettant d'aller sur le web de manière relativement anonyme, c'est pas un problème. Ça n'est un problème que si on croit vraiment que le but, c'est de combattre le terrorisme. Mais ce n'est pas du tout le but de ces mesures. Le but, c'est de mettre en place un contrôle des médias tels qu'ils sont vus par la majorité de la population.
Non, juste un complément sur le flicage d'Internet, il n'y a pas d'autre mot. Faire fermer des sites, ça, effectivement, ça fait longtemps qu'on sait faire. Le problème, c'est que c'est facile à rouvrir aussi. Donc faire fermer un site, si c'est pour qu'il soit recréé dans les 3 heures, c'est un peu une perte de temps, c'est fatigant, agaçant. Donc le législateur s'est dit, ben, on va faire mieux, et ça avait été voté, c'est passé. On va permettre aux juges d'ordonner à la totalité des fournisseurs d'accès à Internet de rendre inaccessible un contenu à un public français. Et ça a été voté. Donc aujourd'hui, on est, il faut le savoir quand même, sur un contrôle de l'accès à Internet, comme au niveau chinois, c'est-à-dire que l'État peut décider à quelles informations vous pouvez accéder depuis le territoire français. C'est pas la fermeture de site, c'est simplement de vous dire, vous ne savez pas si le site existe ou pas, mais on vous empêchera d'y accéder avec des moyens normaux. Donc, si vous connaissez les moyens de contournement, ça sera très facile de les contourner, avec Tor, avec d'autres outils. Donc encore une fois, pour des gens un petit peu compétents, quand je dis un petit peu compétents, c'est qui ont lu un site et demi sur la question, hein, ça va très très vite pour se former là-dessus, ça ne posera pas de problème. En revanche, pour la totalité des autres, ils s'apercevront qu'il y a des contenus auxquels... ils ne s'apercevront d'ailleurs pas que le contenu n'existe pas. C'est-à-dire que le contenu ne remonte pas, quoi. On veut accéder à un site et le site bloque, le site n'existe pas.
Est-ce qu'on ne risque pas, à terme, d'entrer dans les mêmes situations? Par exemple, les boxeurs professionnels doivent déposer leurs empreintes à la police si on ne doit pas, finalement, parce qu'on a la connaissance en tant qu'informaticien, on ne doit pas faire l'objet d'une déclaration de police.
Alors, je ne sais pas si l'informaticien est une arme par destination, c'est peut-être pas encore le cas, mais ça peut le devenir, pourquoi pas. Non, on va espérer que ça ne se produise pas demain. Et comme cette compétence, heureusement, se répand et s'élargit au niveau de la population, ça voudrait dire qu'il faudrait ficher la totalité de la population. On ne peut pas imaginer une chose pareille, comme si ce n'était pas déjà le cas en l'espèce.
Si voilà, c'est ça. Voilà.
Vous venez d'écouter la table ronde enregistrée le vendredi 20 novembre 2015 à la médiathèque José Cabanis avec Maître Stanley Kless, avocat du barreau de Toulouse spécialisé dans le droit du numérique, et Stéphane Borsmeyer, ingénieur réseau. Après l'intervention que nous venons de vous diffuser, eurent lieu 45 minutes d'échange avec le public. Pour des raisons de contraintes horaires, nous ne pouvons la diffuser dans notre programme CPU, mais je vous donne rendez-vous sur le site cpu.pm pour l'écouter l'entièreté du débat. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chef Paranoid Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques des bibliothèques municipales de Toulouse, de l'association Tout Libre et de Radio FMR. L'intégralité du programme, de l'enregistrement diffusé, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est libre de droit. Allez-y, n'hésitez pas. Prochaine release, le clavier souverain. Et oui, encore, mais c'est la dernière normalement en l'espèce. Donc nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet. Bon, on vous explique aussi pourquoi j'ai passé ce vieil enregistrement et pourquoi du coup Stéphane Borsmeyer, alors que c'est contre notre politique, est passé deux fois cette année. C'est que voilà l'été, enfin l'été. Et dans les studios de la radio, il fait juste une chaleur monstrueuse. Allez, je vais fondre un overclocking.